Allez, la suite avec notre invité Didier Lauterborn, écrivain. Il a déjà publié 6 ouvrages, 3 documentaires et là il sort son 3e roman. Il s'appelle Didier Lauterborn. Il publie Le Vibrato Mundi, une fiction aux éditions Saint-Honoré et il est là en chair en os. Bonjour Didier Lauterborn.
Et bonjour James, bonjour Luc et bonjour chers auditeurs de Fréquence Mistral.
Et oui, il y a Luc Bertrand qui est là qui fera sa chronique juste après. Le Vibrato Mundi. C'est quand même un pavé qui représente quelques pages, puisqu'il y en a 449, je crois.
Oui, 450.
450, exactement, si on arrondit. Si on arrondit, pardon. Didier, tu es un voyageur.
Oui.
Et donc, le voyage et la littérature, pour toi, ça ne fait qu'un ou ça fait deux ?
Ça fait qu'un, si vous voulez... Si on se définit comme un écrivain voyageur, on prend une source d'inspiration sur les lieux de voyage. Donc là, comme je suis revenu à Manosque il y a à peu près un an et demi, bon, pour cause de divers confinements et de blocages, j'ai commencé cet ouvrage-là, le Vibrato Mundi, à Vilnius, là où je résidais. Et chemin faisant, je voulais écrire un polar pour la première fois de ma vie.
En Lituanie.
Vilnius en Lituanie, exactement.
Pas Vilnius. Hein.
Oui, oui, pas Vilnius. Vilnius
en Lituanie.
En Lituanie. Et voilà, donc je voulais m'essayer au polar, donc j'ai commencé à écrire un polar. Donc j'ai créé des personnages, du business, des sociétés, des trucs troubles, l'opacité de la finance et tout, etc., etc. Et chemin faisant, je me suis dit oula. Il y a quelque chose qui se passe, là, on est complètement bloqué, il y a un virus dans l'air, il faut que je change mon style. Donc j'ai été bloqué, bien évidemment, confiné, face à un mur blanc, face à une inspiration qui n'arrivait plus. Donc je me suis dit, oula, là, il faut que je trouve une porte de sortie. Et la porte de sortie, ça a été, en fait, essayer de jongler entre le réel et l'imaginaire. Donc qu'est-ce qui se passe dans la société ? Utilise-le. Et mets ton imagination pour faire une fiction. Donc du coup, je suis passé du polar à la fiction. Et donc ce pavé de 456 pages décrit une histoire absolument rocambolesque, hein, parce que j'ai mis pratiquement 2 ans pour le pondre. Donc je l'ai bien couvé à Manosque.
C'est une ponte durant le confinement.
Voilà.
T'as été confiné comme les poules sont confinées dans...
C'est ça. Voilà. Voilà, j'étais dans mon poulailler.
Dans les poulaillers.
Poulailler. Oui, en fait, c'est vrai qu'une création artistique peut se comparer à un œuf, c'est bien. Oui, on prend le temps. Donc il y en a qui prennent.
Il y a un temps de gestation.
Il y a un temps de gestation.
En prendre soin,
trouver le bon endroit pour la pondre, et puis attendre que l'œuf éclose et que le poussin.
Parle-nous, juste une petite aparté qui a un rapport avec évidemment la publication de ton livre qui s'intitule Le Vibrato Mundi. Comment est-ce que tu, en tant qu'auteur, comment est-ce que tu vis la relation avec là où ça se pond, c'est-à-dire les éditions, la maison d'édition ?
Oui, la maison d'édition, très bon rapport avec la maison d'édition. C'est une petite maison d'édition, les éditions Saint-Honoré, localisées dans la rue Saint-Honoré à Paris. Donc il faut envoyer le manuscrit. Une fois que le manuscrit est accepté, il y a des... Comme une feuille de route avec un délai pour publier. Donc moi, je l'ai envoyé fin novembre. Donc la publication, c'est cette semaine, hein, donc mi-février. Là, on a une correctrice ou un correcteur qui s'occupe des petites fautes, des petites boulettes, et un graphiste qui s'occupe de la couverture. Bon, n'étant pas compétent dans le domaine du graphisme, je suggère mes idées. Donc je les envoie par email, des petites photos à quoi pourrait correspondre. Et là, j'avais le choix entre 2 couvertures. Et quand j'ai vu la couverture qui m'a envoyée, Thierry, que je remercie au passage, j'ai dit « Oh là, c'est ce qu'il me faut ».
On peut citer son nom, c'est Thierry Ferrez.
Oui, c'est ça.
Vous citez, c'est pour dire que quand on a un projet artistique, quand on travaille sur un projet artistique, quel qu'il soit, on a besoin d'une équipe.
Tout à fait, tout à fait.
Compétences diverses et
tout
variées.
Tout à fait, tout à fait. C'est un travail de groupe. Donc on part seul et puis on s'aperçoit qu'on a besoin de compétences diverses. C'est une co-création en fait parce que chacun met sa pierre à l'édifice. Donc on est auteur d'un ouvrage, mais on a été aidé par un correcteur et un graphiste bien entendu pour que le manuscrit qui était un projet devienne une œuvre, une production.
Une production littéraire. Revenons à cette production littéraire, le Vibrato Mundi. Tu peux nous en dire plus sur le titre ?
Voilà, alors le titre, Vibrato Mundi, c'est toute une question de vibration, en fait. Mmh. Voilà, donc si vous voulez, je peux vous synthétiser un petit peu l'histoire pour qu'on en arrive au Vibrato
Absolument.
Mundi.
Nous sommes curieux de l'entendre.
Voilà, donc voilà, c'est une fiction. Donc en l'an 3300 de l'ère de Fanar, donc sur une planète qui s'appelle Fanar. Pour éviter la collusion avec une planète, les habitants de cette planète Fanar, que j'appelle les Fanariens, donc des extraterrestres qui n'habitent pas sur Terre, arrivent sur la Terre au moment où les empereurs romains sont en train de mettre en place leur civilisation. Donc ces extraterrestres ayant une capacité d'adaptation, ils se téléportent dans les corps des empereurs romains. Donc l'évolution faisant, c'est que ces extraterrestres reproduisent une lignée que j'appelle la lignée des Fanariens, mais avec la simple particularité, c'est qu'ils ont récupéré les mauvais comportements des empereurs romains.
Aïe.
Voilà, c'est là où le bas blesse. Donc, ce devient des espèces de dictateurs, de gens qui sont assoiffés de pouvoir, un petit peu malsains, vous voyez, un peu opaques, occultes, et au fur et à mesure de leur évolution, les Fanariens arrivent à créer un système pyramidal. À sa tête, il y a les décideurs. Donc vous avez les Fanariens de très haut de gamme qui sont les décideurs et qui décident d'asservir l'humanité, c'est-à-dire de faire de l'humanité du bétail, des moutons, tout ce que vous voulez, passant par un système d'esclavage. Mais leur lignée de Fanariens a un petit chaînon manquant, c'est-à-dire qu'il y a une femme qui s'est accouplé avec un guerrier et quelqu'un au cœur pur, et qui a donné une autre lignée. Donc cette lignée de Fanariens prend toutes les bonnes caractéristiques de ces fameux extraterrestres que j'appelle des lézards, et prend toutes les bonnes caractéristiques humaines des humains. Donc cette lignée que j'appelle les Lempides va combattre ces fameux décideurs qui sont les esclavagistes du monde, pour sauver l'humanité de cet esclavage. Donc là, si vous voulez, il y a 450 pages là-dessus. Voilà. Ensuite, chaque lignée a sa propre évolution. Donc d'un côté, vous avez les décideurs qui deviennent de plus en plus violents, de plus en plus tortionnaires, et de plus en plus, je veux dire, avec une volonté, une avidité de s'accaparer de toutes les richesses du monde. Donc eux, ce sont des gens qui veulent emprisonner. Et de l'autre côté, c'est l'impide qui sont lâchés dans la nature, qui doivent se regrouper pour former un égrégore, c'est-à-dire un groupe de gardiens, qui sont en fait des protecteurs de l'humanité. Donc moi, je les ai appelés les gardiens psychotemporels de l'humanité. C'est leur rôle. Ça fait rire James, mais c'est comme les Jedi,
je
vous voyez.
Je ne ris pas, je souris, car je comprends ce genre de concept.
Oui, voilà.
Les invisibles, on en parle ?
Voilà.
Ou pas ? Dans cette histoire.
Voilà, dans cette histoire, en fait, le réel, c'est qu'il y a un système qui contrôle les humains. Bon, ce système, il y en a qui l'ont appelé la matrice. Moi, je trouve que c'est très bien.
Ah oui, la
voilà.
Matrice.
Voilà. Alors, les décideurs, eux, ben, ils gèrent la matrice. Hein, ils ont tout ce qu'il faut. Hein, ils ont les banques, la finance, ils ont tout pour cloisonner les humains.
Et je ne peux pas m'empêcher de t'interrompre pour te poser cette question. Est-ce que ce que tu as imaginé n'est pas simplement quelque chose qui est purement fortuit, qui ressemble à notre... de manière purement
oui.
fortuite, qui ressemble à notre monde ?
Oui, oui, qui ressemble à notre monde avec une connotation tout à fait différente, en ce sens que dans ma théorie, c'est-à-dire dans ma fiction, les gens qui contrôlent ce monde sont issus d'une lignée de reptiliens qui s'est croisée avec des empereurs romains.
Oui, donc, c'est un peu différent.
C'est un petit peu différent. C'est par rapport à... Voilà.
par rapport à ceux qui sont en place aujourd'hui.
Voilà, l'imagination.
Il n'y a pas de lézard, quoi.
Voilà, il n'y a pas de lézard. L'imagination est venue un petit peu troubler la cohérence du monde réel. Et il fallait que dans ce combat pour sauver l'humanité de l'esclavage total, hein, d'en faire l'équivalent de moutons ou de bœufs domestiqués, parqués, cette humanité, ce groupe de guerriers psychotemporels, je les appelais les gardiens psychotemporels de l'humanité, eux vont tout faire pour bloquer les décideurs. Et ils vont utiliser leur pouvoir.
Le Vibrato Mundi, je rappelle, c'est Didier Lauterborn qui est là dans notre studio, notre invité. Le Vibrato Mundi, c'est le titre de sa fiction paru aux éditions Saint-Honoré. Il nous a parlé de son livre. Maintenant, il va nous lire un extrait.
Alors voilà un petit extrait pour vous mettre dans l'ambiance. Hein. La caste supérieure des fanariens, divisée en trois catégories distinctes et complémentaires, se délectait des émotions disséminées sur l'humain. Bénéficiant de toutes les caractéristiques des sauriens, ils s'étaient tellement bien fondus dans la masse qu'ils avaient absorbé trop de tensions. Ce surplus d'énergie cristallisée dans leur cerveau nourrissait un ego surdimensionné. Comme ils se prenaient pour les maîtres du monde, il leur fallait des esclaves. Les habitants de la planète Terre en étaient les plus vils représentants. En dressant les hommes, ils pouvaient créer divers procédés d'incarcération validés par le système économique.
Je vais passer la parole à Luc Bertrand qui va nous faire une chronique juste après, mais qui intervient, il a une question.
Une question, ouais. Ben alors moi j'ai une question, parce que vous parlez beaucoup d'empereurs romains dans votre livre.
Oui.
C'est ça. Donc il y a tout un travail de recherche, j'imagine, historique que vous avez performé pour écrire ce livre. Comment l'avez-vous pu le réaliser, sachant que vous étiez enfermé chez vous et que vous ne pouviez pas sortir à cause du confinement?
Oui, c'est une très bonne question. En fait, je pouvais sortir, mais j'avais Internet à disposition. Donc la documentation historique, j'avais quelques livres, mais surtout, c'est surtout sur Internet que j'ai pris des sources de documentation. Alors pourquoi les empereurs romains? C'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre et de voir où c'est que je pouvais mettre ces lézards, ces fanariens dans l'histoire. Et donc je les ai mis au début de la construction d'un empire. Et donc qui dit empire dit guerre, dit conquête, dit agrandissement de territoire et dit une hiérarchie avec un empereur. Voilà. Et donc, si vous voulez, pourquoi l'Antiquité? C'est parce qu'après, cette lignée de fanariens, de lézards, si vous préférez, évolue au fur et à mesure jusqu'à arriver au XXIe siècle. Et là, ce ne sont plus des empereurs, ce sont des magnats de la finance et de tout ce que vous voulez.
Voilà. Je rebondis sur la question de Luc qui te disait comment tu avais fait pour pouvoir te documenter finalement. C'était bien ça le sens de la question. Et effectivement, aujourd'hui, on a Internet. Alors, on est voyageur immobile. Tout à l'heure, hors antenne, tu me parlais que t'es un voyageur dans l'action du voyage.
Voilà.
Mobile.
Mobile et maintenant un peu plus immobile.
Un peu plus immobile. Est-ce que ça peut faire voyager Internet?
Internet peut faire voyager, évidemment. Il faut bien évidemment sélectionner ce qui vous fait voyager. Donc la musique, moi des fois j'écris, je mets de la musique. Mmh. Je me suis beaucoup inspiré d'un groupe qui s'appelle The Cure. Quand j'étais complètement en panne d'inspiration, je mettais The Cure. Hein, ça... Et puis hop, petit à petit,
ça... Tu parles du fameux groupe The Cure.
The Cure, voilà.
Bien sûr.
Dépêche Mode aussi, qui me plaît. Voilà, donc j'ai... puis le reggae, et puis Manu Chao. Enfin, la musique m'a aidé à créer des phrases. Après, sur la recherche historique, vous avez Internet, vous avez pratiquement tout, et très rapidement.
Très rapidement, effectivement, les vérifications de la source d'information, je suppose que tu t'y intéresses aussi.
Ah oui.
C'est quelque chose de précis après, parce que dans cette fiction, tu nous proposes c'est une invitation à lire ce livre. Tu es venu nous le présenter pour nous donner envie de le lire. Donc du coup, je suppose que le travail que tu donnes à cette œuvre... C'est un don de soi, quelque part, non?
Oui.
Et donc, la recherche, pour que ça soit crédible, cohérent, même dans un hyper imaginaire, j'allais dire, a besoin d'être soutenu par ce type de recherche. Comment est-ce que tu vérifies tes sources ?
Comment est-ce que je vérifie mes sources ? C'est-à-dire à quel point de vue ? C'est sur Internet ?
Oui, voilà, parce qu'il y a des fiches toutes prêtes sur des concepts, sur des thèmes, sur des...
Oui. Ensuite, il faut faire preuve de discernement. Mm-hmm. C'est-à-dire que, bon, je commence peut-être par Wikipédia, puis après, il y a des revues historiques.
Tu procèdes par comparaison ?
Par comparaison. Mm-hmm. Par comparaison, par discernement. Et puis, si par exemple, un article a été écrit par un historien... Je m'y attache un petit peu plus par rapport à des dates, par rapport à des siècles, bien évidemment. Ensuite, pour trouver une psychologie de mes personnages aussi, je me suis intéressé au chamanisme toltèque, au chamanisme celte et aussi à la psychologie de Carl Gustav Jung avec l'inconscient collectif aussi. Et je me suis intéressé à la psychologie aussi. Et mes personnages, en fait, si vous voulez, ils ont une humanité. C'est-à-dire que dans cette humanité, vous trouvez un développement de leur cerveau à travers un sixième sens, qu'on peut appeler l'intuition, la prémonition ou le ressenti. Donc tous ceux qui sont par exemple bloqués ou mis en esclavage par le système des fanariens, donc des lézards que je viens de vous exposer, les humains sont pris dans une sorte de carapace, de cuirasse, et ils ne peuvent pas vraiment percevoir la réalité. Donc ces gardiens psychotemporels de l'humanité ont perçu et vu une hypnose de masse et ils essaient eux-mêmes d'en sortir et de faire sortir les humains à travers une prise de conscience. Voilà.
La prise de conscience, en ce moment on en parle beaucoup, l'éveil.
Oui, l'éveil. L'éveil,
on dit qu'il y a un vieux monde qui s'écroule.
C'est ça.
D'un point de vue, j'allais dire... pas philosophique, mais d'un point de vue, d'un point de vue plutôt qui concerne l'âme, la spiritualité. Il y a une ouverture spirituelle qui s'est créée avec le fait d'être confiné et de réfléchir au sens de la vie, peut-être.
Oui, tout à fait. Je me suis intéressé au chamanisme de Carlo Castaneda. Donc, dans ma page de Garde, je me suis vraiment plongé sur un domaine qui m'intéresse en particulier, c'est qui s'appelle le temps. Donc, si vous voulez, dans mon livre, mes personnages se déplacent dans diverses lignes de réalité, donc ils sont divers espaces temporels, et ils ont donc la capacité, à travers leur double multidimensionnel, de se localiser à telle ou telle période, même s'ils ne s'y trouvent pas actuellement. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, nous sommes là le 15 février 2022, si nous étions des gardiens psychotemporels de l'humanité, on pourrait aller ou dans le passé ou dans le futur. Voilà un petit peu ma recherche sur les sillons du temps. Carlos Castaneda parle de temps comme une multiplicité de sillons qui sont dans une forme de tunnel que vous pouvez avancer ou reculer. C'est-à-dire que vous pouvez aller soit vers le passé, soit vers le futur. Mais tout en restant nous-mêmes complètement... centrer notre corps physique sur le moment présent. Donc, qui c'est qui va partir dans le passé ou dans le futur ? C'est votre double multidimensionnel.
Est-ce que notre double multidimensionnel, on ne le retrouve pas, justement, tu parlais de psychologie jungienne tout à l'heure,
oui.
Dans la psychologie, c'est-à-dire que effectivement, lorsqu'on fait un travail en psycho, par exemple, on est dans le moment présent avec des choses qui nous ramènent, qui nous viennent
tout à
du
fait.
Passé,
tout
et
tout
puis
à fait.
Sur la question de la projection dans le futur, alors qu'il faut s'attarder sur le présent quand même, parce que c'est maintenant qu'on vit, quoi. Est-ce que c'est de cet ordre-là
Ça y ressemble, c'est-à-dire que oui, dans notre inconscient, si on travaille sur l'inconscient, l'inconscient personnel avec les théories de Freud, l'inconscient collectif sur les théories de Carl Gustav Jung, on va chercher un potentiel qui a été enfoui. Donc on va chercher à l'intérieur de nous-mêmes ce qui nous a été caché, bridé par le conditionnement du système, notre éducation, peut-être nos religions, peut-être des traumas. Et une fois qu'on trouve ce potentiel, on essaie de le mettre en action. Donc moi, toute la subtilité de la démarche sur laquelle je me suis inspiré, c'est que ces gardiens psychotemporels de l'humanité, eux, ils ont un potentiel, un sixième sens, une intuition, une prémonition, qu'ils ont découvert. Donc eux, ils se sont associés pour former un égrégore. Donc eux, c'est un groupe de gens qui ont un petit plus par rapport aux humains, si vous voulez, aux humains, comme pour dire les humains ordinaires. Et donc, ils vont mettre en action leur talent, leur potentiel pour aider l'humanité à sortir de l'esclavage.
Ce serait le message qu'il y a dans ce roman de 350 pages ?
Ah, ça serait un bon message, oui, effectivement. Le message, en fait, c'est que chacun a un propre potentiel qu'il faut trouver. Et une fois qu'on l'a trouvé, là, il y a un développement spirituel, peut-être.
Une autre question par notre ami Luc Bertrand.
Alors oui, vous aviez dit que vous aviez, donc avant d'avoir écrit de la fiction, vous aviez écrit des romans qui étaient...
Des romans documentaires.
Documentaires.
Oui, documentaires.
Pas des romans documentaires, des documentaires.
Des documentaires, oui.
Pardon. Et donc, avez-vous eu des difficultés de passer à des faits, de faits à des métaphores ou des, une opinion un peu plus sur le monde ?
Oui. Oui, le documentaire, c'est quelque chose de très concret, de très synthétique. Donc, il suffit d'avoir des idées claires, de mettre un plan, et après, l'écriture vient cimenter le documentaire.
C'est une forme de journalisme ?
Exactement, oui, oui. Tout à fait.
Le documentaire, de toute façon...
Documentaire, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est un document.
Qu'est-ce que je suis en train de raconter ? Non, mais c'est presque un pléonasme, mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu te places en tant que... Quand tu fais un documentaire, tu te places en tant qu'écrivain, on est d'accord ?
Oui.
C'est l'écrivain qui fait un document, qui réalise un documentaire.
Voilà, voilà.
Tu te places pas en tant que journaliste.
Non, non, je me place en tant que personne qui délivre des documents et avec l'écriture, on fait une petite histoire. Hein, comme Secret des plantes avec le druide et... Le druide du village, quoi.
On rappellera toute ton œuvre à la fin de cette entrevue.
Oui, effectivement, passer du documentaire à la fiction, pour moi, c'était un challenge, parce que le plus, ce qui m'a fait donner le plus de travail, c'est qu'il fallait que je libère mon imagination. Donc, quand on a de l'imagination, qu'elle est coincée, on ne s'en sert pas. Quand on la débloque, on se dit, je peux écrire un roman. Voilà, en fait, ma démarche, c'était de mettre en action et de libérer de l'imagination. L'imagination, pour moi, c'est ce qui vient cimenter un roman, ce qui vient cimenter une histoire. Vous me direz, le ciment, c'est du concret, c'est du solide, mais ça existe parce que je l'ai imaginé. Cette histoire, elle existe, on l'a imaginée, mais elle existe dans une autre dimension.
Tu nous emmènes dans des dimensions diverses et variées.
Oui, effectivement.
En tout cas, je vous invite évidemment à lire... Le Vibrato Mundi de Didier Lauterborn, un peuple extraterrestre appelé Fanarien envahit la Terre à l'époque de l'Empire romain. Bon, ça, tu nous l'as dit. Pourvu d'une intelligence acérée et d'une capacité d'adaptation proche des lézards, il développe rapidement un sentiment de supériorité, les poussant à domestiquer les humains. Bref, peut-être une petite allégorie sur le monde qui fait face à une pandémie actuelle. Ce sera le mot de la fin.
Oui, le mot de la fin. Alors, bien évidemment, j'ai utilisé... ce qui se passait dans le monde. Et donc, mon imagination m'a fait changer de nom de virus. Donc, ces gardiens psychotemporels doivent neutraliser un virus qui s'appelle le Cruci 666.
Ah oui, mais là, on rentre dans le fantasy, carrément.
Voilà, hein, voilà.
On rentre dans le fantastique, pratiquement.
Fiction, fantastique, des fois, on peut
être
entre les deux.
C'est un étiquetage différent, mais on y retrouve quand même des connexions.
On retrouve des symboles.
Des symboles.
Voilà, donc les symboles, c'est quelque chose qui nous fait réagir. On dit, tiens, oh là, le gars, il y a ci, puis lui, il a pris son virus, le Cruci 666. C'est un virus qui a été fabriqué pour effrayer les humains et puis les mettre dans un état de peur, d'anxiété, et pour mieux les dominer, bien évidemment.
Ce sera le mot de la fin.
Oui, ça sera le mot de la fin. Je voudrais simplement rajouter aussi une petit aparté, un petit symbole que j'ai utilisé, c'est la corne de Borée. Donc c'est un instrument magique, donc qui appartenait au dieu du vent, et c'est la corne de Borée qui va aider les gardiens psychotemporels à libérer l'humanité de ces poisons toxiques. Voilà. Je n'en dis pas plus.
Issu qui possiblement pourrait être favorable à l'humanité. On l'espère,
certes,
en tout cas.
Certes, oui.
Que c'est un message d'espoir que tu nous as envoyé.
C'est un message d'espoir, c'est un message de reconquête de l'humanité. Si chacun, à titre individuel, fait face à ses peurs, les met de côté, retrouve son côté humain, c'est-à-dire son côté affectif, émotionnel, et de vivre dans la joie de vivre, là, on fait quelque chose.
Faisons quelque chose de notre vie. Je rappelle Didier Lauterborn, le Vibrato Mundi, fiction, aux éditions Saint-Honoré, 350 pages qu'on trouve sur le site web dont tu nous donneras les références et que vous retrouverez sur le site de fréquencemistral.com puisque cette entrevue va être podcastée et puis dans toutes les librairies.
Dans toutes les librairies, points de vente, FNAC, plateforme, oui, à partir de cette semaine.
Mais tu atteins des sommets, Didier Lauterborn.
Oh ben non, pas des sommets, mais il faut, James, qu'entre artistes, on arrive à partager notre humanité.
Et on va se quitter avec un groupe que tu écoutes beaucoup, Didier Lauterborn. The Cure, je te propose...
ah oui, j'adore, oui, effectivement.
D'écouter le titre Lulabi, tiré de l'album Disintegration.
Ouais, formidable.
À de suite, comme on dit chez moi. À de suite pour un nouveau livre.
Ah ben oui, de suite dans quelques mois.
C'est à de suite.
Voilà, c'est ça. Mais je vais le projeter dans le futur, je vais l'écrire en 3 semaines.
Vous êtes sur Fréquence Mistral, dans le magazine culturel... Magazine du Midi.
His arms all around me, and he's turning my eyes.